Bonjour, ici Éric Gagné, Game Over. Vous écoutez Les Buts Remplis. En way down!
On sort la maison. Entrez en char ou en avion. En way down, en way down. En way down, en way down. On sort la maison. Entrez en char ou en avion. En way down.
Ah ouais donc! Sylvain Rondeau est dans la place. Éric Gagné qui coche présent. Gros show aujourd'hui. Bienvenue au but rempli.
Yes, salut Ben. Alors, salut Éric. Bienvenue dans les buts remplis. Épisode numéro 7, Ben. Donc, on a déjà notre invité en place. Avant de commencer l'entrevue, là, Ben, on a fait un concours la semaine dernière.
Ouais.
On a pigé notre gagnant. On le connaît, on sait son nom. Mais on va l'annoncer plus tard. Donc, restez à l'écoute. On vous annonce ça plus tard. Éric, toi, tu es en Arizona présentement. Qu'est-ce qui se passe avec toi là, en Arizona présentement?
On ne fait pas grand-chose. Ça fait un an et demi qu'on est assis à une place dans le même laboratoire qu'on dit. Mais regarde, busy. J'ai beaucoup de joueurs que j'entraîne un petit peu. Il y a du monde en Arizona que je fais un petit peu. Il y a beaucoup de monde au Japon. Puis je fais beaucoup d'appels de conférences, des choses comme ça. Puis on essaie de garder la forme, premièrement, essayer de s'entraîner le plus possible, puis garder rester sain un peu aussi. Là. Je fais beaucoup de bicycle, puis c'est beaucoup de projets de baseball. Là. Je reste en forme, puis je me concentre vraiment sur le baseball un peu plus en plus.
Éric, je vais commencer ça sur une note légère un peu. On a entendu l'intro, c'est une chanson de Bob Bissonnette. Puis Bob Bissonnette a aussi une chanson sur toi. Je voulais savoir certainement que tu as déjà entendu cette chanson-là, mais je sais pas, t'as mets-tu pour t'entraîner? Qu'est-ce que tu penses de cette chanson-là qui est écœurante?
Ouais, j'ai une belle histoire en plus de cette donne-là. C'est pas la première fois que j'ai entendu, c'était à Québec, sur la terrasse, je pense, après une game. On a commencé à boire, je pense, on a bu une trentaine de bières plus avec ça. Fait que, on a eu vraiment du fun. Des nouvelles, des souvenirs que j'ai avec lui, c'est vraiment incroyable. Il a fait rire le monde alentour de lui. Puis, je pense qu'on avait, je me rappelle plus exactement, au début de la saison, quand je jouais avec les Capitals, on avait un party d'équipe qu'on a fait sur mon paintball à Repentigny. Puis, il était venu, il avait fait des chansons sur le bord du feu, c'était vraiment quelque chose de le fun. Puis, il avait joué ma tune la deuxième fois, je pense que j'ai entendu, ma première live, c'était vraiment quelque chose de spécial. Puis, c'est vraiment un honneur qu'il y avait une tonne sur moi, puis j'ai eu vraiment de fun avec lui. Quand on a dégorgé, on a pris un tabarnage, je vais dire.
La chanson est bonne, puis après 30 bières, elle est encore meilleure.
Ah, elle est incroyable.
Sylvain, t'as-tu un extrait de la chanson?
Ben oui, j'ai un extrait, je vous passe ça.
On ferme les lits, c'est terminé. Qui monte sa petite Éricanie avec ta balle bouchette. T'as déjà striké dans tes bouchettes. Avec des lunettes qui font peur, la victoire est signée.
Éric, j'ai fait des recherches là, pour, avec la chanson. Puis j'ai été voir si tu avais déjà striké Dante Bichette pour de vrai. Okay? Puis j'ai découvert que le 21 avril 2000 à Cincinnati, parce qu'il n'était plus au Colorado, il était à Cincinnati. Tu l'as striké. Mais il s'est rendu au premier but sur une balle passée.
Ça, je ne me rappelais pas vraiment.
C'était Todd Unley qui était en arrière du marbre.
C'était qui?
Todd Unley qui était en arrière du marbre.
OK. Ah ouais.
Puis la seule petite affaire que je ne suis pas sûr que c'est vrai, c'est que je pense qu'en 2000, tu n'avais pas encore ta barbichette.
Ça se peut bien. Peut-être un petit peu moins grand. J'avais des plus gros, des gros joues aussi. J'avais un petit peu de baby fat sur le dos. Fait que...
Des Renault chez vous, mon Sly, hein?
Oui, ça travaille fort, je vous dirais. Mais Éric, dis-moi donc, as-tu un retrait au bâton ou un moment où que tu te rappelles le plus dans tes souvenirs?
Moi, le plus beau moment, je pense que j'ai eu de toute ma carrière, c'était comme Barry Bonds. Je pense que tout le monde a vu une vidéo un petit peu comme Barry Bonds. Elle avait un petit peu une gageure. J'avais pas le droit de lancer un changement de vitesse qui était mon gang-pain, je pense. Puis... Écoute, c'est le plus gros moment parce que j'ai affronté. Pour moi, Mamor Latinoz était le meilleur joueur de baseball au monde. Puis moi, j'étais au top de ma carrière. Puis être capable de dire, gars, là, j'étais un contre l'autre, contre Barry Bonds. Puis il a frappé deux circuits en plus. C'était un peu plus difficile que pensais, mais c'est vraiment un des plus beaux moments. Puis gagner la Série mondiale, que moi, j'ai pas vraiment été bon, mais la chance de gagner la Série mondiale, c'est vraiment un... C'est vraiment une chance incroyable parce que j'ai la bague. Écoute, c'est sûr que j'ai de mauvais souvenirs quand je m'en sais, mais c'est vraiment quelque chose de fun.
J'ai regardé justement la vidéo hier de ton, challenge avec Barry Bonds. Là. C'était écœurant. Là. La deuxième prise, là, c'était une rapide à l'intérieur. Là. C'était quel pitch. Ouais. Puis, ah, non, tout le monde était au bout de leur siège. C'était écœurant.
Ouais. C'était le fun parce qu'on avait fait une gageure justement au Japon. C'est ça, ça faisait 2 ans quasiment de ça. Puis là, il m'a vu quand j'ai embarqué justement sur une monticule. Quand j'étais sur une monticule, puis embarqué dans le bar pour frapper, il m'a regardé, il a fait un petit tip de tip de hat comme ça. Ils m'ont voulu en dire, OK, let's go, c'est un contre un. Puis c'est pour ça que je pense que c'était vraiment le meilleur moment pour moi dans ma carrière, parce que je savais que c'était le meilleur. Puis on avait quasiment une petite gageure là-dessus, puis il a gagné.
Le deal, Sylvain, c'était que fallait qu'il y ait 3 points d'avance, OK? Puis. Eric n'avait pas le droit d'utiliser sa changement de vitesse. Puis, il s'était affronté 2 fois en 2003, si je ne me trompe pas, mais les conditions n'étaient pas réunies. Donc, ça a été jusqu'en 2004 où il y a eu ce fameux match, ce fameux at-bat. C'était terminé par un circuit de Barry Bonds, mais après ça, tu avais fermé les livres, comme dit la chanson, puis les Dodgers l'avaient emporté 3-2. Dans ma folle soirée sur Baseball Reference hier, je checkais un peu aussi les gars que tu avais affrontés puis contre qui tu avais eu beaucoup de succès. J'ai vu que contre Ken Griffey Jr., tu avais pas mal de succès contre lui. Il y a eu 1 en 12 puis tu l'as striké 5 fois. Est-ce que ça fait partie de. Puis tu sais, je le sais que toi, tu as vécu ça. Fait que, pour les joueurs, quand tu es dedans, c'est plus une affaire de journaliste, là, ça, contre qui tu as du succès et tout ça. Je suis sûr que tu te rappelles que contre Ken Griffey, tu avais du succès contre lui.
Oui, c'est ça. Le plus drôle là-dedans, je me rappelle juste du home run que j'ai donné. Je pense que c'est un en 12, c'est un home run en plus. C'est un changement de vitesse à l'extérieur, 3 balles, 2 prises à Dodger Stadium, puis vraiment un beau swing, champ posé. C'était quelque chose de vraiment spécial. Tu affrontes les meilleurs au monde, là, tu y penses toujours. Tu as tout le temps. Et on essaie le temps de se comparer. Veux pas, c'est nos idoles quand tu es plus jeune. Tu regardes un gars comme Ken Griffey Jr., tu savais, automatiquement, c'est un gars de Hall of Fame. Fait à chaque fois, tu essaies de step up your game un petit peu avec ces gros joueurs-là. Puis c'est des beaux souvenirs que j'ai eus. Puis c'est vraiment, je me réjouissais pas pantoute que j'étais en gros contre lui. Mais c'est le fun à savoir parce que je me rappelle juste du home run, moi.
En fait, c'est lui qui est un en 12 contre toi.
Oui, c'est ça. Mais moi, pour moi, dans ma tête, j'ai quand même un circuit dans ma carrière. Lui, il est un en 12, c'est un circuit de, je pense, de 2 ou 3 points.
Excellent.
Tout le monde se rappelle de ton entrée sur le terrain là, quand ça partait là, au Dodger Stadium, le game over, ça mène. Moi, je trouvais ça tellement intimidant. Toi, est-ce que tu sentais que tu avais comme un edge sur les frappeurs en arrivant sur le monticule et tu n'avais même pas lancé une balle encore?
C'est sûr que oui. Veux pas. OK, t'embarques dans ma situation, j'ai dit toi que je suis tout le temps en avance. Puis ils savent déjà un petit peu ce que moi je vais faire. Fait qu'ils sont un petit peu plus anxieux. Ils essaient de faire un petit peu plus que d'habitude en 9e manche. Tu sais, il y a plus un sense of urgency un petit peu. Fait que tu prends l'avantage de ça. Puis aussi avec le. Je ne peux pas dire avec les fans que j'avais en arrière de moi, avec l'adrénaline et tout, c'est ça, j'adorais ça. Ça me faisait vraiment embarquer comme un super-héros sur le monticule. Tu sais, c'est incroyable l'adrénaline que tu as. C'est pour ça que j'allais lancer quasiment tous les jours. Tu embarques là, tu as 50 000 personnes qui revirent fou quasiment. C'est vraiment un feeling incroyable. Mais écoute, tu essaies juste de concentrer à ta job. C'est sûr que tu as un petit peu un avantage sur les frappeurs parce qu'ils t'affrontent juste la première fois dans cette soirée-là, c'est sûrement d'habitude, c'est un autre lanceur complètement différent qu'on a vu les deux premiers at-bats. Mais moi, c'était mon job, j'adorais ça. C'était vraiment quelque chose de fun pour moi, l'adrénaline tout le temps. Puis je voulais pas manquer une journée, mettons.
Excellent. Hey, Sylvain, on a un autre invité qu'on amène avec nous, un autre spécialiste de lanceur. Alors, Marc-Antoine Bérubé, bienvenue. Je pense que tu es sur mute, si tu veux. Voilà.
Yes, sir.
Comment ça va?
Ça va bien, vous autres?
Ça va très bien. Marc-Antoine, qui est coach des lanceurs à l'ABC, un petit gars de 3 pistoles que j'affectionne particulièrement depuis l'époque des fourmis de 3 pistoles. mais ce qu'on peut dire, Marc-Antoine, c'est que l'élève a dépassé le maître et de loin. Ce que j'ai dit à Marc-Antoine, j'ai dit, viens cette semaine, on va parler avec Eric, puis... L'objectif, c'est que ce que je veux que Manu, vous ayez une conversation et que je ne comprenne plus rien beaucoup. Parce que moi, je pense que je connais ça, le baseball. Puis quand je me mets à parler avec Marc-Antoine puis avec Eric, c'est là que je me rends compte qu'il y a des que c'est vraiment plus poussé. Fait que Marc-Antoine, à la blague, il dit « Ah, c'est bon, on va parler de vertical break puis de laminar flow. » Fait que je te laisse aller, Marc-Antoine. Juste me dire... un peu à quel point la science est poussée puis à quel point toi, tu utilises ça, tu sais, à un certain moment quand les lanceurs ont atteint un certain niveau là, puis que tu vas dans des trucs plus spécifiques là, comme le laminar flow.
Ben, je te dirais qu'il y a comme une fine line à ne pas dépasser pareil. Là, tu sais, je veux dire, la technologie, elle a tellement accéléré dans les dernières années, ça n'a aucun bon sens. Tu sais, moi, dans mes années que je jouais, ça commençait, puis là, ben là, c'est juste rendu quelque chose d'un peu fou. Tellement d'informations que c'est facile de se perdre. Je dirais qu'avec les gars avec qui je travaille à l'ABC, il y en a certains qui sont rendus à utiliser la technologie, puis c'est correct. Mais une des choses que je pense qu'Éric, tu vas être d'accord, c'est que la game est vraiment simple, puis il ne faut pas oublier de la garder simple, parce que sinon, tu te perds, right? Fait que, une chose en son temps, je pense que toute la technologie, c'est utile, ça donne des feedbacks incroyables, ça te fait voir des choses que tes yeux peuvent pas voir. Faut juste l'utiliser bien comme il faut, là, tu sais. Fait que, on établit des systèmes encore. Moi, j'apprends encore beaucoup avec ça. Je veux dire, je suis pas comme, c'est comme Eric avec des gars probablement qui travaillent des plus hauts niveaux, peut-être qu'il est capable d'en utiliser un peu plus, tu sais, puis peut-être plus accès à la plus grosse technologie encore. Là. Il me semble qu'il y a une couple d'affaires chez lui qui sont pas faits. Mais non, clairement, c'est une belle affaire, il faut juste faire attention, même si c'est super nice. T'sais.
Moi, Marc-Antoine, je m'amuse à le qualifier de scientifique fou, mais j'ai l'impression que Eric, tu es aussi tellement passionné par les lanceurs, puis tu as travaillé dans les dernières années avec Jason Therrien, avec d'autres gars, pour les développer. Fait que tu tiens au courant aussi des dernières technologies. Je pense que tu travailles sur un projet aussi là, où tu veux développer un peu ce côté-là scientifique avec les lanceurs. Peux-tu nous parler de ce projet-là?
Oui, mais écoute, premièrement, on parle de technologie. Moi, mon but dans la technologie, c'est vraiment d'utiliser les bonnes technologies avec les bons joueurs que tu as besoin. Parce que c'est important de. Tu sais, il y a tellement de technologies, comme qui disait, tu peux en prendre une ou prendre l'autre. Il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise. Je pense que c'est la façon que tu l'utilises. Puis pour moi, l'important là-dedans, c'est vraiment de se concentrer sur qu'est-ce que le lanceur est capable de faire. Puis le projet, moi, que je veux faire, c'est vraiment d'avoir une place universelle que tous les joueurs de high school, tous les joueurs de partout dans le monde, ils ont une place que tout rentrer leur data, leur vidéo, les choses comme ça, toute une place qu'ils sont capables de se faire voir, parce que c'est pas tout le monde qui sont capables de te voir. Par exemple, comme tu joues en France, il n'y a vraiment pas de scout, mais il y a quand même du bon talent, ou tu vas en Europe, partout, mais tu n'es pas capable de te faire voir. Bon, moi, mon but, c'est vraiment d'avoir un pas universel à 100%, mais être capable de pouvoir te présenter. T'sais, mon nom, c'est Eric Gagné, je viens de Mascouche Beach, puis je suis capable de me faire voir sur mon site, pour montrer que je suis capable de lancer des choses comme ça. Mais quand on parlait de technologie, je pense que c'est ça le plus fun en technologie, c'est vraiment d'avoir la chance de te comparer aux autres. La chance, un gars, mais un exemple. Moi, j'en sais de majeur, mais voir mon spin rate, voir mon vertical break, voir toutes les choses comme ça, puis de comparer avec un gars de 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, puis voir c'est où la différence, puis c'est quoi que tu peux t'améliorer. Pour moi, l'important, c'est pas vraiment de savoir, OK, il faut que vraiment lancer comme Eric Gagné ou comme quelqu'un de Kershaw. C'est juste de voir, exemple, c'est de les comparer un petit peu. Mais qu'est-ce qu'il disait Marc-Antoine, c'est vraiment important de savoir que comment tu l'utilises, puis combien tu l'utilises, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas besoin de ça. C'est vraiment quand même, il faut que tu sentes ta balle dans tes doigts, il faut vraiment que tu lances de ta façon. Puis je pense, pour moi, pour les coachs, c'est quelque chose qui m'aide énormément, parce que tu peux voir des choses. Moi, je vois beaucoup de choses quand un jeune lance, mais le voir, puis montrer, puis faire « OK, gars, ton spin rate est ça, ou ton axe est un petit peu différent de ce que tu pensais. » Mais là, ça peut aider, puis ça peut... À place de lancer 50-60 lancers pour savoir le bon feeling, mais tu peux en lancer 5, 6 ou une dizaine. Et là, ça t'économise 40 lancers pour ton bas. Parce que veux pas le bas, ça va exploser une manette. Tu ne peux pas lancer jusqu'à la fin de ta vie. Moi, j'aimerais ça faire ça, mais c'est ça qui aide un petit peu. Ça fait juste un shortcut un peu pour l'apprentissage pour les joueurs. Puis pour les coachs.
Est-ce qu'il y a une statistique, là, je veux dire, il y en a d'innombrables statistiques au niveau des lanceurs. Est-ce qu'il y en a une qui retient votre attention, que peut-être le commun des mortels qui suit le baseball est peut-être moins à l'aise à connaître ça, mais que vous, pour vous, là, c'est des chiffres vraiment importants et on attarde une attention à ça.
Moi, écoute, pour moi, en tant que lanceur, ce que j'aime voir, c'est moi, j'adore les contacts. La force du contact, pour moi, c'est important. Parce que surtout, un gars qui lance des sinkers, parce qu'il y a beaucoup de monde qui dit vélocité, ou les rétro bâtons. Mais je pense que c'est vraiment le contact. Quand tu as plus de contact possible, c'est important d'avoir le plus de contact. Puis la vélocité de chaque contact. Pour moi, c'est important. Ça veut donner une bonne idée si, mettons, tu peux accorder 400 points, puis c'est des bons chanceux ou les balles frappées dans les trous. Ça arrive, c'est pas un problème. C'est juste que beaucoup de monde qui se concentre juste sur la vélocité, se concentre juste sur spin rate, des choses comme ça. Spin rate, c'est bon, mais si c'est un bon spin rate, la balle va juste aller plus loin, c'est pour la lancer ce que tu veux. Je pense que c'est important de savoir c'est quoi que ça veut dire les statistiques, puis les prendre pour qu'est-ce qu'ils sont, juste des chiffres. Il y a beaucoup de choses au baseball qui, c'est pas noir et blanc, c'est vraiment gris. Il y a beaucoup de choses que tu essaies de faire, que tu vas faire avec un joueur, que tu fais la même affaire qu'un autre, puis c'est complètement différent. Je pense que c'est ça qui est important, avoir des bons coachs comme qu'on a à l'OB pour l'instant, de savoir la différence, d'utiliser les technologies ou les statistiques d'une bonne façon.
Le spin rate, Eric, c'est vraiment la rotation de la balle combien elle en fait avant de se rendre au marbre, dans le fond.
Exactement. C'est juste de voir la balle, combien de rotation qu'elle fait avant qu'elle se rende au marbre. Puis dans le temps, on appelait ça, on dirait la balle a monté un peu giddy up sa fastball. C'est la même chose. C'est juste que, tu sais, les anciens coachs, les plus vieux, on avait un langage de baseball, mais là, qu'est-ce qu'ils font? La seule différence, c'est qu'ils mettent des chiffres sur le langage. Mm-hmm. Je pense que c'est ça la différence. Je pense que c'est ça le plus important de savoir. C'est il n'y a rien qui a changé dans le game. Les chiffres, c'est juste qu'ils mettent des chiffres à place de dire des émotions un petit peu en tant que mot. C'est ça la seule différence. Moi, la façon comme moi, je parlais, moi, Marc-Antoine, on peut parler de baseball, jamais utiliser un chiffre, mais parler exactement de la même statistique sans dire les chiffres. Écoute, on parlait dans le temps, c'est giddy up, lance à l'intérieur, lance en haut, des choses comme ça. À ce temps, ils vont dire des chiffres, le spin rate, le vert break, toutes les choses comme ça. C'est important, c'est le fun à voir parce que là, au moins, on sait qu'est-ce qu'on parle quand on dit qu'on giddy up, mais c'est la même chose. Je pense que les nouveaux coachs qui s'en viennent un petit peu, c'est juste sur le data, puis c'est le fun d'avoir des gars qui ont joué, puis qui comprennent le data en même temps, ça fait un beau mélange ensemble.
Marc-Antoine, toi, c'est quoi la donnée que tu trouves très importante ces temps-ci? Là, je sais que tu trippes pas mal sur le laminar flow, là, ces temps-ci.
je veux juste...
Je l'entends, le laminar flow.
Ben, on pourrait aller dans les trucs de laminar flow, mais en fait, c'est juste que là, tu parles de quand même... C'est de la grosse physique avancée. Là. Mm-hmm. Tu vas te perdre là-dedans. Mais en fait, la grosse affaire avec ça, regarde, je ne suis pas encore tout 100% là-dessus, là, mais dans le fond, c'est que quand on regarde, mettons, avec un Rapsodo, il y a le spin rate qui va amener un certain vertical break ou un horizontal break en fonction de l'axe puis le RPM que tu as à la balle. Puis ça fait en sorte que ta balle, elle va bouger d'une certaine façon. Mais il y a aussi la façon que l'air, la densité de l'air, le vent, whatever, qui va amener du mouvement à la balle aussi. Fait que c'est pas juste le spin qui amène du mouvement, c'est tout, tu sais, l'environnement autour. Fait qu'avec le laminar flow, que ça comme, ben, c'est Driveline qui ont amené ça beaucoup, là, de ce que j'en ai compris. C'est que dans le fond, il y a un moyen d'utiliser un flow qui est turbulent d'un bord, puis un flow qui est laminar, dans le fond, c'est des lignes droites où est-ce que le vent s'en va comme bien comme faut. Ça fait une zone de turbulence d'un bord, une zone d'air droite d'un bord, puis ça crée genre une super two-seam. Mais ça, tu sais, comme Eric, tu disais, c'est, les affaires sont pareilles, puis elles sont different. Ben, tu sais, tu regardes des vidéos de Greg Maddux dans le temps, ou même la fastball inside de Barry Bonds, contre Barry Bonds que tu as lancé, Eric, là. C'est 100% un laminar flow. Mais là, à cette heure, ils ont mis un terme, puis là, à cette heure, à chaque fois que tu vois un gars qui lance une fastball inside au gaucher qui tombe sur la inner half de la strike zone, ben là, laminar flow. Mais c'est bon.
La prochaine fois qu'on t'invite, Marc-Antoine, je vais inviter un chroniqueur météo en même temps, tu sais, pour les ondes de turbulence, de dépression, avec les petits graphiques et tout. Là. Ouais. Ça va être magique.
Mais ça, c'est vraiment, c'est le fun parce que c'est important. Puis en plus, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'il dit, c'est l'environnement. Tu sais, tu peux lancer le même lancer avec un laminar flow. Tu peux lancer le même lancer en Floride ou au Colorado, puis c'est complètement différent comme lancer. Là, parce que il existe pas au Colorado qu'il existe en Floride. Je pense que c'est ça l'important de savoir, parce que c'est bon d'avoir des bons termes comme ça, des nouvelles statistiques, mais quand tu sais quand l'utiliser, puis le polarisation, pourquoi, c'est ça le plus important là-dedans.
La dernière fois que je t'ai rencontré, Eric, c'était en Arizona, au camp Spring Training 2018, tu étais dans l'organisation des Rangers du Texas. J'étais là, moi, parce que mon cousin Frédéric qui collabore avec l'ABC, d'ailleurs, puis qui est un bon ami à Marc-Antoine, était dans l'organisation des Mariners à l'époque. Puis, je me rappelle qu'on avait eu une rencontre après, puis ce que j'avais retenu de ça, là, je t'avais posé une question, j'ai dit « Hey, Eric, penses-tu un jour que tu vas coacher dans le baseball majeur? » Puis tu m'avais dit, tu m'avais répondu, c'est pas si je vais coacher dans le baseball majeur, la question c'est quand, c'est sûr que ça va arriver. Je voulais savoir si tu es encore dans ce mindset-là, si tu penses un jour coacher dans le baseball majeur.
Oui, je vais coacher un jour, mais je vais coacher à ma façon. Je vais me rendre là par rapport à moi-même. Je ne sais pas de me changer de personnalité ou changer de mon attitude à cause qu'une équipe, à cause que je veux me rendre là. Je pense que je vais me rendre des majeurs en tant que coach, parce que je sais que je suis vraiment bon, j'ai appris énormément de choses. Je pense que c'est ça qui est important. Moi, ça fait comme j'ai dit, comme avec les Rangers, quand on s'est rencontré avec les Rangers, moi, j'avais beaucoup à apprendre par rapport au data, par rapport à coacher, parce que coacher, c'est une autre chose. C'est pas pareil comme... C'est facile de lancer quand t'es une monticule, t'es la seule personne qui prend les décisions, tu te connais à 100%, mais qu'est-ce qui est le fun d'apprendre à coacher, c'est de coacher des personnalités différentes. Comment parler à un jeune? Qu'est-ce qu'ils sont capables d'apprendre? Il y a des jeunes qui faut que tu changes la façon que tu lui parles, faut que tu changes la façon que tu essaies de les éduquer un petit peu. C'est ça qui est le fun. Ça m'a pris 2, 3, 4, 5 ans. J'apprends encore. Tous les jours, j'ai des choses là que j'apprends. Mais je vais me rendre mal, c'est sûr. Et ça, c'est juste une question de temps, comme je te disais. Puis, mais j'aimerais ça être une place qui vont m'accepter comme moi je suis, comme une personne que j'aime parler, j'aime toujours mon opinion. Je vais toujours challenger les nouveaux concepts. Puis, je pense que c'est ça le plus important. Tu sais, j'ai la misère un petit peu de masser et de ne pas dire mon opinion, mais écoute, ça ne changerait pas de toute façon. Je pense que c'est important de dire ce qu'on pense, puis de pas de challenger l'autorité, mais de challenger la raison pourquoi on fait les choses comme ça. Parce que je pense que les nouvelles techniques sont arrivées, les nouvelles data, je pense que c'est vraiment été un bord complètement sur le data, puis on ferait juste regarder le data. Je pense qu'il est important, là, ça s'en revient tranquillement, pas vite. Pas old school, mais ça sent un bon milieu. Je pense que c'est ça là, le fun de voir le baseball. Il y a tellement de gros talents énormes à ça. Les joueurs sont bien meilleurs quand moi je lançais. Les joueurs, là, tu vois le talent, il est vraiment beaucoup plus élevé. C'est sûr, ils ont beaucoup moins de maturité parce qu'ils arrivent là plus jeunes, mais pour moi, je pense que c'est une question de temps. Je pense que je suis plus un coach mental que mécanique, je pense, plus que d'autres choses. Puis à un moment donné, ça revient tranquillement pas vite. C'était vraiment rendu data, puis là, ça revient tranquillement pas vite. Un petit peu que c'est le juste milieu, le meilleur des deux mondes. Je pense que dans pas longtemps, je vais l'être. J'aimerais ça peut-être à Montréal, à un moment donné, avoir des expos, puis être coach à Montréal, c'est incroyable.
On aimerait ça aussi, Marc-Antoine. Ouais. J'ai le goût de relancer Marc-Antoine sur ce même sujet-là. Tu sais, j'entends tellement de bonnes choses sur toi, tu sais, à quel point tu développes bien les lanceurs à l'ABC, tu sais, puis veux pas, tu sais, t'as eu ton propre rêve en tant que lanceur dans l'organisation des A's de gravir les échelons, puis maintenant, est-ce que c'est un rêve que tu pourrais avoir de gravir les échelons comme entraîneur, puis peut-être un jour coacher aux États-Unis, dans les filiales ou dans le baseball majeur ou avec Eric chez les Expos de Montréal?
Honnêtement, je sais pas trop quoi répondre à ça. Là, j'aime bien me projeter dans le futur et d'avoir des projets. J'ai plein de projets et tout ça, de voir les opportunités à aller coacher dans une organisation des organisations de ligue baseball majeur, ben. C'est sûr que ce serait incroyable, tu sais, je sais pas, tu sais, ça amène tellement de changements de vie, parce que veux pas, là, je l'ai vécu comme joueur, c'est beaucoup de sacrifices de faire ça, right? Mm-hmm. De coach, ça l'est probablement encore plus. Moi, j'étais impressionné de voir les coachs qui se levaient à quasiment 4h30 du matin pour aller poigner les vans, s'en aller faire le coach de meeting de coach, après ça, revenir chercher les joueurs, après ça, aller porter les gars au terrain, un autre meeting, tu sais, c'est fou raide, les sacrifices que ça amène avec ça. Je dis pas non, je pense que, tu sais, je veux dire, ça reste que c'est la place ultime où est-ce que tu veux aller. C'est là où est-ce que tu te compares avec les meilleurs. Ça a toujours été ça que j'ai voulu dans la vie, me comparer avec les meilleurs. Fait que, we'll see, mais j'ai plusieurs portes, là, soit comme coach ou comme thérapeute ou we'll see.
Moi, j'ai une question parce que, bon, vous avez été les deux lanceurs, vous êtes impliqués avec des lanceurs. Et moi, je trouve que présentement, Il y a beaucoup, beaucoup d'opérations Tommy John. Je trouve que c'est de plus en plus, il y en a. Et ça, à tous les niveaux. Ce n'est pas juste au baseball majeur. On entend des histoires de jeunes au secondaire qui demandent de voir l'opération pour augmenter leur puissance. Vous, comment vous voyez ça? Est-ce que c'est rendu un fléau dans le baseball, ça, la fameuse opération de Tommy John qui a fait la reconstruction du ligament intérieur là, dans le coude?
Ben, Eric, tu l'as eu, je pense que. Okay. J'allais dire, faut y aller parce que c'est toi qui l'as vécu. Mais tu sais, je veux dire, je pense que c'est une réalité quand même triste. Mais en même temps, quand tu regardes. Ben, tu ne souhaites pas ça à personne, dans le sens. Mais il y a quand même une majorité de. Il y a du succès énorme avec les opérations Tommy John. C'est quand même quelque chose que tu ne souhaites pas à cause que, un, il y a des risques. Mais de deux, c'est que ça t'amène loin du terrain qui te coupe de ton développement. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui voient ça comme étant pas si pire aussi parce que tu compares les statistiques avec les gars qui sont dans les ligues mineures ou les ligues majeures qui ont accès à justement les soins de santé qui sont les meilleurs puis que aussi ils font ça un peu avec le incentive d'avoir de l'argent, on s'entend. Il y en a qui vont faire la même chose quand ils vont arriver au high school ou au collège à cause que bon, il faut qu'ils poussent parce qu'il y a un bonus de signature qui est associé à ça. C'est sûr que, je veux dire, c'est une triste réalité, mais en même temps, quand tu lances, comme Yuri te dit, quand tu lances une balle de baseball, ça vient avec des risques, puis tu peux pas ne pas lancer de balle de baseball parce que tu penses que peut-être tu vas avoir quelque chose qui va arriver, parce que je veux pas que ça va arriver, mais cela dit, je pense que la chose qu'on peut faire, c'est de contrôler ce qu'il y a en nos mains, notre préparation, puis de faire ce que tout ce que tu as à faire pour protéger ton bras du mieux que tu peux, puis après ça, ben regarde, c'est poche, là, mais...
On dirait qu'il y en a plus qu'avant, si tu... Parce que justement, les gars lancent plus fort. Qu'est-ce qui est arrivé, Eric, tu crois?
Aussi, ben écoute, dis-toi que dans le temps, on ne s'entraînait pas autant. L'entraînement est rendu beaucoup plus intense. On lance beaucoup plus souvent. Les jeunes lancent quasiment juste du baseball à l'année longue. Je pense aussi qu'il faut vraiment donner un petit peu de break aux jeunes. Les jeunes n'ont pas le temps de donner un break. Je pense qu'ils pensent s'il manque un tournoi là où ils ne jouent pas l'année au complet, des choses comme ça. Moi, je ne jouais pas l'année au complet. J'ai joué 40 games par année quasiment maximum. C'est sûr que ce n'était pas idéal, mais je pense que les jeunes lancent tôt avec l'entraînement qu'ils ont. Beaucoup de pression on parle de driveline, des choses comme ça. Quand ils sont jeunes et qu'ils ne comprennent pas, tu sais, driveline, c'est vraiment bon. Il y a des bonnes choses en driveline, mais si tu ne le fais pas comme il faut, tu exposes aussi ton coach. J'ai vu beaucoup de jeunes faire des erreurs comme ça. Moi, j'ai coaché. Puis comme tu dis, je pense que c'est une pandémie, là. C'est vraiment un moment donné, il faut que tu te dises, OK, c'est assez. Puis les jeunes pensent qu'ils vont lancer plus fort aussi. Je pense que c'est un petit peu, ils disent, oh, on va le faire tout de suite, on va lancer plus fort. Mais l'affaire, c'est que tu ne lances pas plus fort. C'est juste que tu as un nouveau ligament. Tu te concentres à 100% sur faire ta réhabilitation. Je pense que si tu fais une réhabilitation avant de te blesser, penser que, OK, que comme tu serais blessé, tu fais la même chose avant. Tu te concentres vraiment à renforcer ton bras puis les muscles alentour, des choses comme ça. Puis tu donnes un bon repos à ton bras. Je pense que c'est ça le plus important. Puis au Québec, on regarde ça. Je trouve que moi, j'ai été chanceux. J'ai eu une opération, ça m'a pris un an et demi. J'ai été chanceux, je suis revenu comme il faut. Mais regarde, Jason Therrien est encore blessé. Puis ça fera longtemps qu'il essaie de revenir. C'est dangereux de faire une opération. Il n'y a rien de garanti. C'est juste que c'est rendu que... L'entraînement est un petit peu plus intense. En plus, à lancer des balles plus pesantes, des choses comme ça, les jeunes sont beaucoup plus jeunes. Ils jouent beaucoup de baseball, ils lancent beaucoup de balles. Ils essaient de se prouver un petit peu plus que dans le temps. Je pense que c'est ça un petit peu le problème. Mais écoute, c'est comme tu dis, il faut juste faire un ajustement, soit des entraînements ou des ajustements pour donner plus de repos aux jeunes, des choses comme ça. Ou juste de vraiment, à place de donner un entraînement par rapport à tous les jeunes, donner un entraînement par jeune, puis vraiment se dédier à un entraînement par jeune pour être sûr que c'est made pour le joueur. Je pense que c'est ça le plus important.
C'est là que c'est important de s'entourer des... Je te laisse aller, Ben, mais l'important de s'entourer des bonnes personnes aussi là-dedans. Tu sais, je veux dire,
là, je vous relance parce que je veux être sûr de bien comprendre. Là vous me dites qu'il y a des kids qui ne sont pas encore blessés et eux autres, ils se disent « Ouais, je pense que mon ligament pourrait lâcher bientôt et que je fais l'opération avant d'être blessé. »
Mm-hmm. Même des parents, je pense. J'ai vu des parents dire que regarde, tu vas lancer plus fort, on le fait ça. Tu sais, c'est important de penser que les parents poussent les jeunes beaucoup plus que les jeunes se poussent eux autres. Je pense que les jeunes à 15-16 ans, ils veulent jouer au baseball. Je pense que c'est le plus important. On a une grosse. Je pense que les jeunes à 16, 17, 18 ans, quand ils ne sont pas faits de fort, avoir encore le temps des heures, il faut faire ça, il faut jouer à l'année longue. Je pense que les parents ont besoin de backup un petit peu, juste laisser les jeunes jouer. Puis quand t'es bon, écoute, je me suis fait repêcher. Moi, j'étais un gars de Mascouche, j'avais trois scouts dans le temps. je me suis fait voir. Tu vas te faire voir si t'es bon. Si t'as un bon potentiel, t'es capable de lancer, puis t'es capable de faire, ils vont le voir à quelque part. C'est juste de ne pas pousser trop. Puis c'est vraiment, c'est dangereux de faire l'opération. Il y a, ça s'est rendu que oui, c'est 100 fois mieux que ce l'était quand moi je le faisais. Mais à un moment donné, veut, veut pas, il y a des risques. Puis c'est des risques t'es capable de. Il y a un gars comme Greg Maddux qui n'a jamais eu une opération à son coude. Ça, c'est des gars à suivre. Pas que peu d'opérations. Regarde son entraînement qu'il faisait. C'est sûr que dans le temps, c'est complètement différent. Lui, c'est un peu l'extrême, mais il y a quand même quelque chose. Un gars comme Paul Quantrill, un gars qui est un Canadien, un Québécois qui a lancé 15, 16 ans des majeurs, il n'a jamais eu une opération au coude. Un gars comme Jeff Passero, qui joue 22 ans. Moi, je m'entraîne avec lui. C'est un de mes amis, un voisin, il joue avec des expos. Il n'a jamais eu une opération au coude. C'est pourquoi qu'on n'a pas eu d'opération. Il lançait beaucoup, il lançait moins, il prenait des journées de repos, des choses comme ça. C'est important de savoir ça, c'est qu'est-ce qui est arrivé pour les gars qui ont eu des bons exemples. C'est sûr qu'ils vont avoir des blessures. Là. On ne se cachera pas. Là. On lance une balle de baseball, c'est pas naturel. Il va y avoir des niaiseries qu'on fait, des mauvais mouvements, de la fatigue, des choses comme ça va arriver. C'est juste que là, c'est rendu un petit peu plus que les jeunes pensent qu'ils vont revenir tout de suite, ils vont lancer plus fort. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est un mythe. C'est pas vrai du tout. La raison pourquoi on lance plus fort, parce qu'on se concentre à la réhabilitation vraiment à 100% à se renforcer. Je pense que c'est ça. Si on pense à la place d'une réhab, là, une prevention réhab, une prevention avant de se blesser, puis s'entraîner de la même chose qu'ils font. Un gars comme Carl et Marc-Antoine, c'est ça qui est le fun du monde comme ça, à l'entourer des jeunes qui connaissent exactement c'est quoi un bon entraînement, un mauvais entraînement. Ils sont capables de faire des ajustements pour les jeunes, puis c'est pas juste. Oh, I'm trying to do this because I'm trying to look good. C'est vraiment pour les jeunes. Les jeunes essaient de les améliorer. C'est le fun d'avoir du monde de même à l'ABC parce que c'est ça le plus important. C'est sûr que les jeunes ont le meilleur entraînement, le meilleur environnement pour apprendre puis s'améliorer tranquillement, pas vite. C'est pas à cause qu'on veut mettre les jeunes puis les envoyer tout de suite dans les majeurs ou les envoyer dans les collèges. C'est important d'aller tranquillement, pas vite puis de y aller avec. D'écouter le jeune, le corps d'un jeune, il va te le dire exactement ce qu'il est capable de faire puis de porter attention à ça, c'est important.
On parle de lanceurs. Puis là, aujourd'hui, je profite du fait qu'il y a des rénaux chez Sylvain pour poser plus de questions. Puis je vais prêcher pour ma paroisse. Puis je veux qu'on parle un peu de catcher. Je suis curieux de savoir, Eric, c'est qui le meilleur catcher, tu penses, ou le top 3 des catchers que tu as eu dans ta carrière? Puis peut-être le plus mauvais, là, si tu as le goût d'aller là, puis pourquoi. Mais puis Marc-Antoine, en même temps, j'ai le goût de savoir justement, tu sais, avec toutes les techniques que tu développes avec les lanceurs, c'est tellement important aussi que les catchers soient allumés là-dessus, là, parce que, je veux dire, à un moment donné, c'est bien beau le laminar flow puis le vertical break, mais le catcher, il faut qu'il pogne la balle. Là.
Bon point. C'est qui va en premier? Là, c'est
oui, on va y aller vite. On va faire ça vite parce que j'aimerais que je parle tout le temps. Mais je pense que le meilleur catcher que moi j'ai eu, c'est Cody Ross, qui me connaissait personnellement. Puis c'était vraiment un gars qui était vraiment impliqué dans chaque décision de lancer. T'sais, il savait exactement, il me connaissait moi. Il savait ce que moi j'avais besoin de faire, ce que moi je voulais faire, mes intentions. Puis c'était vraiment un sportcast un petit peu. Et à chaque fois que j'avais une idée, puis je voyais son mettons exemple, je pensais fastball, puis je voyais qu'il me mettait une fastball. T'sais, ça l'aide un petit peu, ça l'aide ton mental, ça l'aide d'enlever les. Dans ton esprit un petit peu. Puis quand tu es capable d'avoir confiance en ton receveur, ça l'aide énormément dans ta sélection de lancer. Puis écoute, le moins bon, c'est niaiseux à dire, là, mais il est dans le Hall of Fame, c'est Mike Piazza.
Ah ouais, hein?
Il m'a catché deux bon fois les mineurs. Oui, il était fort au bâton, mais il a l'amusant. Il était grand, il était gros, c'est dur un petit peu de descendre qu'il était. Puis il avait des mains de ciment, on va dire. Mais c'est un bon Jack.
Marc-Antoine, c'est quoi l'importance d'un bon catcher?
Ben, je pense que, comme tu dis, Eric, ben, là, tu disais que lui, il avait vraiment des mains de béton, là, mais l'impression de lancer à un mur de béton, là, ah, ça, c'est la pire affaire comme lanceur, c'est terrible. Fait, tu disais, le pire catcher, c'est pas nécessairement le talent du catcher. Là. Oui, là, à ses poches, quand ton catcher n'est pas capable de te framer le pitch qui est borderline, puis que tu veux pas, ça flippe le compte, puis la game, c'est juste le compte. Fait, ça fait chier quand toi, tu as des bons pitchs, puis il fait pas sa job, en guillemets, même si, en tout cas, il va à la guerre pour toi aussi, bref, là, on s'éloigne. Mais le point étant que c'est d'avoir une relation avec ton catcher, puis c'est une des choses qu'on incule beaucoup, puis je pense que c'est ça, c'est de pas lancer avec un mur de briques, puis comment qu'on fait pour être sur la même page, justement, avec ton catcher, ben, c'est, ben, de un, d'être body-body, puis de savoir, bon, ben, c'est quoi son film préféré ou whatever, c'est qu'est-ce qu'il aime faire après, avant une game. Bon, ça, c'est hors baseball, mais d'apprendre à se connaître, tu sais. Puis après ça, ben, d'établir un plan de match pour justement, comment que je fais pour, aujourd'hui, je veux lancer un no-hitter, c'est quoi le plan idéal pour que je lance mon no-hitter? Ben, let's do this. Là, des fois, il y a des journées que tu te sens comme un peu pas super. Fait que là, il faut que le plan de no-hitter prenne le bord puis que tu t'arranges. Du shit is hitting the fan, faut que tu t'arranges. Mais je pense que vraiment, la chose qu'on veut, c'est développer l'aspect plus psychologique. Les gars, ils veulent tout qu'on leur donne les affaires techniques, mais une chose en son temps. Je veux dire, il y a des choses qui ont leur place en technique, mais de ce que je vois présentement avec les nouveaux gars, justement, dans le WC, c'est que ils veulent toute la technique, mais ils oublient que crime, c'est pas juste ça. T'sais. Il y a un gros pourcentage qui est du feel, puis de communication, que ce soit verbal ou non verbal. Le monde du pitching, oui, on peut parler de chiffres, mais bien, le plus important, c'est savoir la personnalité des autres joueurs pour faire les interventions qui ont de l'allure pour que justement les affaires techniques se fassent assimiler comme il faut après.
Ça, c'est un gros problème. Je dis souvent que les catchers ont un peu un rôle de psychologue. T'sais. Il y a des fois, selon le lanceur qui est au monticule, là, tu grimpes, tu vas voir sa butte, là, tu dis telle chose à un joueur, tu le crinques, ben, il y en a un, ça va marcher, puis l'autre de côté, tu dis la même affaire, puis ça ne marchera pas. T'sais. Il y en a un autre, là, tu es mieux d'aller sa butte, tu comptes une joke de cul, puis là, ça va le détendre, puis il va se mettre à lancer. Mais l'autre, tu vas y compter une joke de cul, oublie ça, il va virer fou, man. Puis, pour de vrai, il y a vraiment un travail de savoir, OK, c'est quel type de gars qui s'abute.
Mais c'est pour ça aussi, tu vois, les meilleurs coachs des majeurs, les meilleurs managers des majeurs, c'est des tout catchers. La raison, pourquoi? Parce que il faut qu'ils managent des émotions, des personnalités, des choses comme ça. C'est ça qui est un receveur, c'est un quarterback. C'est simple. Il faut que tu aies une bonne idée de c'est quoi ton lanceur, il pense, qu'est-ce qu'il va penser, c'est quoi. C'est niaiseux, mais en tant que lanceur, on a deux, trois mots, on a ça, des mots-clés. Que mettons, exemple, pour moi, c'est OK, Eric, reste. C'est niaiseux, mais il peut dire juste reste en arrière comme ça. Il peut juste faire un petit signe. Là, ça t'aide dans ta mécanique, des choses comme ça. Mais si tu n'as pas la relation, comme Marc-Antoine disait, si tu n'as pas une bonne relation, mais tu n'auras pas confiance en ce qu'il dit. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il fait, comme il dit? La relation, c'est vraiment ça le plus important dans n'importe quoi. Parce que si maintenant, la relation avec un lanceur et un coach, c'est important aussi. Si moi, je dis quelque chose à un lanceur et il dit, ah, je ne suis pas sûr, je bois pas ça, je sens pas ça. Mais il sait exactement ce que je veux dire. Parce qu'il a confiance en ce que je dis, puis ça fait longtemps qu'on se parle, puis on a la bonne communication. Je pense que c'est ça le plus important en tant que baseball, parce que 99% de ce qu'on fait, c'est mental. Rendu au niveau où est-ce qu'on est rendu, que ce soit dans le A, dans le 2A, dans le 3A ou dans le majeur, le monde sont tous pareils par rapport au talent. Le talent est identique. C'est juste c'est le mental. Qu'est-ce que tu arrives? Comment tu es capable de t'en sortir quand ça va pas bien? Comme il disait Marc-Antoine, quand shit hit the fan, how are you going to react? C'est quoi que tu vas faire quand ça va pas bien? C'est quoi que ton receveur peut t'aider et dire « Hey, t'as-tu besoin d'un joke? T'as-tu besoin? Hey, let's go, réveille-toi un peu. C'est quoi que t'as besoin? » Comme tu disais, c'est ça les psychologues ça fait. Ça regarde un petit peu c'est quoi mes tendances, puis ça m'aide avec mes tendances à me diriger dans la bonne direction. C'est juste ça un receveur. C'est pas un gars qui va dire il va savoir toutes les lancers quoi faire, mais il va être capable de penser à c'est quoi que toi tu penses, c'est quoi que tu aimerais lancer, puis être réaliste, parce qu'il y a des journées qu'on pense que notre curveball est vraiment bonne, ben pas du tout. Puis tu sais, le receveur, il faut qu'il voit des petites choses comme ça, c'est important. C'est de la communication, que ce soit avec verbal, non-verbal, avec le corps, que ce soit n'importe comment. C'est ça l'important, une confiance. La confiance vient avec la relation avec le receveur, je pense.
En parlant de receveur, Sylvain, on a-tu un dans la salle d'attente?
Ben oui, exactement, c'est ça que j'allais dire. On parle de receveur au souhait là, mais avant, j'ai une dernière petite question, parce que de mon travail à TVA Sports, je côtoie beaucoup de joueurs de hockey, surtout, et des gardiens. Et souvent, on a les discussions, comment on arrive que le signe que ça s'en vient vers la fin de votre carrière. Et ils me disent que c'est le corps qui lâche, qui finit par lâcher. Et là, je me posais la question, en tant que lanceur, c'est quoi le signe qui vous dit que c'est la fin? Là? Est-ce que c'est aussi le corps qui dit, moi, je suis plus capable dessus, je suis plus capable de maintenir ce niveau-là? Comment on arrive à ça?
Vas-y, Marc-Antoine.
C'est plate, mais oui, il y a un peu de ça. Là. Il y a du monde qui ont frappé le mur de niveau, justement. Mon niveau de jeu s'est rendu trop haut pour ce que je suis capable de performer. Puis ça, c'est une triste réalité. Là. Tout le monde m'a frappé son mur à un moment donné, puis c'est ça qui est ça. Mais c'est sûr qu'au niveau santé corporelle, je pense que ça fait partie de la game. Je veux dire, tu pousses la machine. Puis moi, personnellement, je l'ai vécu. J'ai poussé au max que je pouvais. Puis à un moment donné, ben, ça pète. Puis le mauvais signe, c'est quand c'est rendu que ça te prend vraiment, vraiment beaucoup de temps pour t'échauffer. Puis que tu bounces pas trop bien entre tes sorties. Là, c'est sûr que tu dis, ouais, quelque chose à quelque part qui va pas bien. Mais c'est le prix à payer, je pense. Il n'y a pas personne qui voudrait enlever. Qui voudrait ne pas payer ce prix-là, je pense que ça amène tellement de belles expériences que c'est pas si pire que ça.
Ouais. Mais moi, Marc-Antoine, je te l'ai jamais dit de même, je vais te le dire live, là. Je suis vraiment fier même, du parcours que tu as eu, tu sais, le kit de trois pistoles, puis quand tu as été repêché par les A's, là, moi, je jouais déjà dans les A's de Schlaga Centre-Sud, là. J'ai vécu mon rêve, genre, de façon interposée, tu sais. J'en revenais pas, genre, t'as un kit qui est repêché de trois pistoles, là, et c'est par mon club, tu sais. Mon seul regret, c'est jamais avoir été te voir au Vermont quand tu lançais pour les Lake Monster, mais je te lève, je veux juste te lever ma casquette, même si j'en porte pas, là, pour ta carrière, puis ce que tu fais présentement. Beaucoup de respect pour toi.
Merci beaucoup.
En plus, qu'est-ce que tu fais présentement? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait là avec les jeunes qui les aident, là, qui sont expérimentés? C'est une chose d'être professionnel, mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est vraiment incroyable avec les jeunes, lui montrer exactement qu'est-ce qui t'a passé, et qu'est-ce qu'il a besoin. C'est le fun d'avoir des gens qui s'impliquent comme ça. C'est vraiment incroyable.
Merci à vous deux. Là. Je pense que je prends fierté justement à faire tourner la roue et à donner les choses que moi j'aurais aimé ça avoir. T'sais. J'aurais aimé ça avoir ça. Je suis allé à des endroits que jamais j'aurais pensé atteindre numéro un. Puis je pense que ça. Le but, c'est que les autres kids dépassent moi ce que j'ai fait, je pense. C'est toujours ça. Je veux leur donner ce que moi j'ai pas eu. Puis je pense que c'est toujours drôle que j'entende le monde dire qu'ils sont fiers de moi. Quand moi, c'est la première chose, j'avais de la misère à dire que je suis capable d'être fier de moi. T'sais. Une fois que j'avais regardé à la fin ce que j'avais fait, je suis fier de moi pour de vrai. T'sais. Mais en même temps, c'est ça. Je pense que c'est dur de voir comme expérience de joueur parce que tu veux toujours plus dans la vie. Mais à un moment donné, je suis capable de dire que comme un petit gars de trois pistoles, regarde. Mes big leagues, là, ben, ça a été ça. Man. Il y en a que leur big league, c'est de jouer dans le junior élite. Il y en a que c'est de jouer dans le 2A. Il y en a que c'est jouer dans les majeurs. Ben, c'est pas, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Je pense que c'est de toi, qu'est-ce que tu voulais faire. Fait que c'est des choses, je pense, des apprentissages de vie qui n'ont pas de prix puis qu'on essaye de pousser les autres joueurs en dessous pour que c'est ça, ils vivent les expériences comme nous autres, on a vécu.
Moi, mes big leagues, c'est quand j'ai été rappelé par le seigneur de trois pistoles. J'ai le droit à un at-bat. C'est Danny Paradis-Giroux qui lance pour Cabano. Hey, con! Laissez-moi une chance, là, tu sais. Le gars qui lance sur les capitales qui vient lancer contre moi. Hey, on rentre au jouet.
Ouais. Toi, Eric, c'est quoi le moment où t'as senti là, que c'était... ça s'en venait vers la fin, là, si on veut, là, si on me permet l'expression.
What's up? Moi, là, écoute, moi, c'est simple, là, c'est quand j'ai plus eu de fun. Quand c'est rendu, c'était une job, ouais. C'est là que c'était assez. Là. C'est, j'ai été chanceux, par exemple, j'ai eu la chance, je pouvais me permettre d'arrêter de jouer au baseball, j'ai fait de l'argent, c'est ça qui est plus le fun. Il y a du monde qui continue parce qu'ils n'ont pas le choix, veut pas. Mais c'est vraiment, c'est quand tu as du fun, tu t'amuses tout le temps, tu continues à t'amuser. Moi, j'ai pas pris encore ma retraite, ça fait trois fois que je prends ma retraite parce que j'ai arrêté d'avoir du fun trois fois, mais là, j'ai encore du fun, fait qu'on essaie de recommencer.
Ouais, en parlant de ça, puis Éric, au podcast de Baseball Québec, dernièrement, j'entendais que tu voulais peut-être essayer pour l'équipe canadienne pour la qualification pour les Jeux olympiques. As-tu une mise à jour dans ce dossier-là?
Yeah, moi, c'est pas compliqué. À chaque fois qu'il y a un tournoi international, WBC ou soit les Olympiques, je vois tout le temps dans ma tête, je peux lancer. Fait que... Je continue à lancer, écoute, ça serait le fun. Au pire, aller chez un joueur-entraîneur ou juste un entraîneur, ça serait le fun. Fait que, j'ai jamais eu la chance de lancer dans les Olympiques. En 1996, c'est la dernière année qui est tombée que le baseball était dans les Olympiques, mais on a perdu contre, je pense, le Nicaragua. Puis, j'ai eu mon WBC, la dernière fois, j'ai eu la chance finalement d'aller dans le WBC, j'ai lancé trois manches. Bien, j'ai jamais été aux Olympiques. Ça serait vraiment un rêve incroyable, mais on reste réaliste quand même. J'ai 45 ans. Fait qu'on, on va peut-être se contenter d'un joueur, peut-être même entraîneur. Ça, c'est incroyable. Ouais.
On va appeler Greg Hamilton là, après le podcast. Hey, Marc-Antoine, merci d'avoir été avec nous.
Ça fait plaisir, les gars.
Excellent.
Salut, mon âme.
Aux ouais.
Salut, Beru. Moi, j'arrive, toi, tu pars. Salut.
Merci, Marc-Antoine.
C'est un plaisir, les gars. Salut,
Bram.
Josué, je pense que tu avais une question pour Eric avant qu'on le laisse.
Ouais, Eric, écoute, on a été au même collège. Okay, on est allé à Seminole. On a connu, je crois, et c'est pour ça que je veux te poser la question. Là. Je vais faire une histoire courte, là, longue, quand même courte. C'est le coach le plus sévère, le plus militaire, le plus respecté, je pense, du monde de JUCO aux États-Unis. Je pense qu'il y a 1900 quelques victoires, 312 défaites en carrière. Mm-hmm. Écoute, c'est ridicule, ces chiffres. C'est un scout maintenant, donc c'est M. Lloyd Simmons, Zero, qu'on l'appelle. Mm-hmm. Je veux dire, on l'appelait, mais il est encore vivant. Donc, Eric, moi, je veux savoir là, à quel point que Seminole a joué un rôle dans ta carrière, et pas nécessairement juste comme joueur de baseball, mais comme personne, parce que moi, sincèrement, les gars, ça a été vraiment le point tournant de ma vie, parce que j'ai vécu des choses là-bas que... écoute, j'ai des situations qui m'arrivent dans la vie de tous les jours, là, puis je me dis, OK, ça ne peut pas être pire que Seminole. Donc, ça m'aide à me sortir. Non, mais sincèrement, ça m'aide à me sortir des choses dans la vie, même à ce jour, que je suis comme, OK, non, c'est impossible que ça soit pire que moi, que mon coach me fasse enlever mes pantalons de game et mon jersey pour rouler dans le champ parce qu'on avait battu une équipe deux fois, mais la deuxième fois, on ne les a pas assez battus par beaucoup de points. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, wow. Eric, je t'envoie la question. Quel nom a changé ta vie?
Ouais, a changé ma vie. La journée que je suis arrivé là, c'est comme tu disais, Z est incroyable. C'est une personne que c'est un père. Là. C'est un gars qui change ta vie. Il te moule en tant que personne, en tant que joueur de baseball. T'sais, c'est un joueur de baseball, c'est un détail. Je pense qu'il te prépare pour la vie. Il te prépare vraiment à être une personne, à avoir du succès. Avoir tout le temps le positif dans le négatif, tourner un négatif en positif à tous les jours. Puis comme tu dis, man, on s'est pas roulé à terre, mais on a couru longtemps, par exemple. On était en dessous de la pluie, on a couru un 3 heures de la pluie parce qu'on avait, je pense qu'on avait même pas perdu. Le JV avait annulé. C'est je pense ça. Qu'on n'avait pas gagné par 6-7 points. On n'a pas eu run rule. Puis la game d'après, tout le monde buntait parce qu'on a manqué un bunt. On buntait pendant 5 manches complètes. On n'arrêtait pas de bunter, puis on a gagné en plus cette journée-là. On buntait, mais la soirée d'avant, il nous a fait courir dans le champ ensemble. Je pense que c'était 3 heures sur place. 3 heures sur place. On n'arrêtait pas. Je ne me rappelle plus exactement la raison, mais écoute, ce gars-là, il a changé la vie. Il a changé la vie de toutes les personnes qui étaient allées à Seminole. Ils changent leur vie pour le positif. Parce que, pas juste côté baseball. Le baseball, c'est quasiment un détail. Là. Parce que cette personne-là, il s'entraînait avec nous autres. Moi, dans le temps, moi, quand j'étais là, il s'entraînait avec nous autres à 4h30 le matin avec sa femme. C'est un exemple, cette personne. C'est une personne qui a changé ma vie. Moi, le baseball, je ne peux plus jouer au baseball au Canada, dans le fond. Là. Les autres, ils m'ont accepté là-bas, ils m'ont adopté. Je ne parlais pas un mot anglais. Écoute, c'était incroyable. Souvent, à Montréal, en Oklahoma, tu ne parles pas un mot anglais en anglais. Il m'a amené à l'église la première journée. Il m'a amené à l'église. Je me suis levé devant tout le monde. Tu sais, c'est vraiment une petite communauté. C'est vraiment quelque chose de... que j'ai jamais été qu'elle avait de dire. J'ai tout le temps envoyé des messages à Z. Moi, Bizzy, on a le temps une connexion, pas juste moi puis lui, mais je pense que tous les joueurs qu'on joue avec, c'est vraiment une connexion que ça fait longtemps. C'est une famille qu'on joue ensemble. Puis c'est vraiment une personne incroyable. Lui, sa femme, toute la communauté à Seminole. Puis je pense que tu regardes les produits qui sont sortis de là, pas juste par rapport au baseball, par rapport à la personne. C'est toujours les meilleures personnes. C'est du monde qu'on reste tout le temps en contact parce que c'est une place vraiment, vraiment, vraiment spéciale. Puis c'est la raison pourquoi j'ai joué au baseball les majeurs, c'est à cause de Seminole, puis à cause de Zero Tolerance, Zero BS, Zero Rien. Just good job and focus on what you need to do every day. Hey, c'est Eric, une bonne question, on va dire de quoi.
Eric, tu es vraiment généreux avec nous. Merci d'être là puis de rester. Écoute, moi si ça te va pour toi, tu peux rester avec nous. Pour la chronique de Josué, tu sais, Josué, en plus, ton sujet, c'est Pujols et les Dodgers. Mais Eric, sens-toi bien à l'aise si...
J'ai rien d'autre à faire. J'ai un autre 10 minutes certain. J'ai un 5-10 minutes, c'est correct.
Excellent, on te garde.
Parfait, ça.
Oswey, oh. On y va-tu avec la toune aujourd'hui ou on a un invité puis on se garde une gêne? Ben non, on y va.
Oh non.
Aujourd'hui pour tous les amis qui ont répondu à l'appel de Jésus. Ouais, donc, Oswey, la chronique.
Moi j'adore que tu le fasses tout le temps. Ben écoute, les gars, aujourd'hui, je veux vous parler d'Albert Pujols parce que, bon, on le sait que ça a été un choc dans le baseball majeur. Je ne pensais pas qu'une équipe de la Nationale pouvait se permettre d'aller chercher Albert Pujols, mais écoute, les Dodgers qui sont vraiment là, anéantis par les blessures, on le sait qu'ils ont connu un départ incroyable. Le monde parlait même qu'il allait avoir comme 130 victoires dans l'année puis aller battre tout le record du monde. Et on a vu ce que le baseball peut faire. Eric peut en parler très bien. Tu peux avoir la meilleure équipe au monde. Là. Il faut que tu travailles fort à tous les jours. Tu ne peux pas juste te permettre là, de t'asseoir un petit peu sur ton talent. Eh bien, je pense que Pujols, c'est une signature très intelligente de la part des Dodgers parce que premièrement, il va amener du leadership. C'est quelqu'un, j'en parlais un petit peu là, la semaine dernière, que à chaque fois que, quand j'étais avec les Jays, qu'on jouait contre les Angels, tous les joueurs des Jays, on allait voir Pujols. C'est un gars respecté partout dans la ligue. C'est un gars qui va amener du calme un petit peu à la tempête des Dodgers. Puis, je pense qu'ici, il y a une très bonne raison, là, puis Eric, je pense que tu vas pouvoir là, en commenter un petit peu. C'est, il était déjà installé à Los Angeles. Alors, pourquoi vouloir amener sa famille dans un temps de pandémie, dans une autre ville? Je pense que peut-être qu'il y a eu des équipes là, de l'Américaine là, qui se sont essayées beaucoup. Mais je pense que les Dodgers, là, c'est un choix logique, pas seulement pour les Dodgers, mais aussi pour Pujols, là, avec sa famille, en espérant là, que justement les autres équipes maintenant puissent lui faire un petit peu là, des hommages lorsqu'il va dans les autres terrains pour la dernière fois. Parce que si on compare les chiffres là, d'Albert Pujols, là, c'est ses 10 premières années là, avec les Cards, là, ils ont montré ça justement cette semaine avec les chiffres de Pujols, avec de Mike Trout, que tout le monde parle comme c'était le meilleur joueur. Puis écoutez, Pujols, il y a quand même une longueur d'avance sur lui. Alors, je pense que ça va être une bonne signature. Puis en plus, hier, là, justement, Seager, là, ils ont annoncé qu'il avait la main fracturée. Donc, je pense que ça va faire du bien là, aux Dodgers.
Éric, as-tu encore une partie de ton cœur qui est avec les Dodgers, là, évidemment, avec toute l'histoire que tu as eue avec cette équipe-là? Puis, qu'est-ce que tu penses de l'ajout du bon vieux Albert?
Once a Dodger, always a Dodger, hein? Tu bleed blue, écoute, ça changera pas, ça changera jamais. C'est mon équipe qui m'ont adopté, qui m'a fait grandir, qui m'a raison que on parle de Séminole, mais là, j'ai été chanceux, j'ai fait partie des Dodgers, j'ai fait partie de Séminole, j'ai fait partie des Boston Red Sox, c'est des équipes incroyables, mais avec Albert, je pense que la raison, c'est un gars, c'est un professionnel, et il sait comment gagner, il va aider les jeunes, il paniquera pas, comme tu disais. C'est vraiment incroyable. C'est un move class, un class incroyable des Dodgers parce que oui, ils ont besoin de lui, mais je pense que Albert, c'est un petit peu. Comment ça finit avec les Angels? Il s'en va juste à côté. Ouais. je pense que c'est un petit peu, je veux pas dire un FU de Angels, mais je pense que c'est un bon move des Dodgers. Je vais dire de quoi? Parce que je me rappelle dans le temps, ils disaient This is our town. Et dans le temps, ils ont changé même leur nom, les Los Angeles Angels, Anaheim, juste pour dire un petit peu, hey, on est meilleur que les Dodgers. Là, je pense que c'est un petit peu un reverse, un petit peu. Ils changent un petit peu de bord avec Albert qui s'en vient dans un parage, puis il va faire son, comme tu disais, peut-être sa dernière tournée. Mais je pense qu'ils veulent gagner une série mondiale, puis ils voient exactement ce qu'Albert amène en tant que joueur, en tant que personne, en tant que leader. C'est un leader qui, comme on parlait de sa famille, c'est une personne qui a fait énormément de choses dans pas juste sur le terrain de baseball, on parle de sa fille puis sa femme. Il s'est impliqué dans énormément de bons, des organismes incroyables. Mais c'est un gars qui veut gagner. Il voulait pas partir, il n'a pas fini. Je pense que c'est fun d'avoir un gars qui a un chip on his shoulder. He wants to prove that he can still do it. Je pense pour lui, c'est important de continuer à faire ça. Avec les Dodgers, il y a tellement un bon support cast là-bas. Ils n'ont pas besoin de lui qui soit un Albert Pujols de 10 ans. Là. Il a juste besoin d'un gars qui va se présenter à tous les jours, qui va être positif, qui va donner un bon exemple aux jeunes et de ne pas paniquer. Je pense que c'est ça la valeur d'Albert Pujols puis il va l'amener à tous les jours. C'est ça de voir une équipe gagnante contre les Dodgers qui ont gagné l'année passée. Ils veulent gagner chaque année. Ils vont faire ce qu'ils ont besoin de faire pour gagner. Puis c'est ça que les fans, vraiment, ça fait longtemps qu'ils ont besoin de ça. Parce que ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas gagné. Depuis 88, on n'avait pas gagné. Puis il y a eu des équipes qui ont dit, voyons, c'est bizarre que les Dodgers, Ils n'ont pas des meilleures équipes. On devrait gagner pas mal plus souvent que ça. Mais là, ils le font. Là, puis je pense qu'ils ont prouvé aux fans, puis ils ont prouvé au baseball qu'ils sont prêts à faire n'importe quoi pour gagner.
Excellent. Hey, merci beaucoup, Éric, d'avoir été avec nous. Classac, puis tu sais, je sens qu'il y a une partie de ton cœur qui est encore au Québec. Puis quand tu prends le temps comme ça de venir à des podcasts, je trouve ça super. Pour nous, c'est super cool, mais pour tous ceux qui écoutent, sont contents de t'entendre parler de baseball, Rick.
Ouais, j'ai sûr qu'il est là au Québec. Il est tout le temps là sur moi. Fait que...
Excellent. Salut, boys.
Merci, Rick.
Merci, Eric.
Merci, là. Merci, c'était le fun. Bye-bye.
En way down.
Merci, bye.
Salut.
All right.
Ça, c'est le fun, les boys. Ça.
Ben oui, yes, écoute, c'est incroyable. Puis, tu sais, si vous avez écouté le podcast, là, puis vous ne l'avez pas écouté avec votre jeune garçon ou fille qui joue au baseball présentement, là, allez le chercher, puis repassez le podcast avec lui ou avec elle. Pour... Il y a tellement de bons conseils de Marc-Antoine, d'Éric également. Je pense que ça vaut la peine pour les jeunes, pour le développement de celui-ci, d'entendre quelqu'un, deux personnes comme ça, hyper compétentes dans ce que, puis hyper crédibles dans ce qu'ils disent.
Ça prend juste un traducteur, là, même moi, il y a des petits bouts que je pense. Mais c'est ça, je m'aurais demandé.
Je vais t'envoyer les sous-titres, Benoît.
Moi, il y a des bouts de l'entrevue. À un moment donné, je veux plus trop comprendre. T'sais. Fait que là, tu voyais, à un moment donné, il y avait des slangs en anglais, des expressions que les autres utilisent tout le temps, mais qui sont beaucoup plus avancées là, que curveball puis change-up. Toi, t'as-tu tout compris, Osoué?
Absolument. Moi, je riais là, quand j'étais dans la salle d'attente. Je riais. Là, mais tu sais, c'est des termes que vraiment, là, en français, là, c'est nouveau en anglais. Imagine si on veut les dire en français. Là, je pense qu'il faudrait vraiment aller les chercher quelque part. Mais absolument. Parce que, tu sais, comme Beru il disait, là, c'est des nouveaux termes qu'avant, c'était une rapide d'un droitier à l'intérieur. Que maintenant, ben, on appelle ça quelque chose et ainsi de suite. Alors, je pense qu'on s'en va par là aussi un petit peu, là, tu sais, c'est la technologie. Mais c'est pour eux autres, c'est facile de déchiffrer. Là. Pour eux autres, ils savent que c'est juste une rapide à l'intérieur.
Un jour, mais on parlera de courant laminaire. trucs comme ça.
Exactement.
Hey, c'est l'heure du pitch and catch, hein, mon Ben?
Ah ben, oui donc. Yes, sir!
Ça va prendre une autre chanson. Il faut que tu inventes une autre chanson pour ce segment-là.
Là, pas, là. Quel pitch aujourd'hui?
On peut y aller avec la rapide.
Rapide? Excellent.
Vas-y avec la rapide.
Ben, en fait, la rapide est un peu thématique avec ce qui s'est passé aujourd'hui. On a reçu un récipiendaire du Trophée Cy Young. Fait que j'aimerais ça savoir, vous, c'est qui votre choix pour gagner le Cy Young dans l'américaine puis dans la nationale cette année?
Commencer si vous voulez, les boys. Écoute, moi, dans la nationale, y a-tu vraiment quelqu'un d'autre que Jacob deGrom qui peut remporter ça pour l'instant? Là? Je veux dire, oui, il est juste 3 victoires, 2 défaites, mais je veux dire, il n'y a pas d'appui en attaque du côté des Mets, quoi qu'on gagne de plus en plus dernièrement. Mais une moyenne de points mérités de 0,68, c'est tout simplement hallucinant. 65 retraits au bâton pour 7 buts sur balle seulement. L'adversaire qui frappe pour 128. Je sais que je présume que vous allez me parler de Corbin Burnes, peut-être, là, un de vous deux, là, mais je veux dire, je pense que Jacob deGrom est dans une classe à part. Puis dans l'américaine, ben, mon choix, c'est Garrett Cole. Là,
ah ouais, il est dans ton pot.
1,37, ben, c'est ça, c'est un choix naturel. Puis lui, il a juste 3 buts sur balle depuis le début de la saison. Tu sais, on est obligé de considérer un peu John Means aussi, un no-hitter, il est 4-0, 1,21. Mais je pense que Garrett Cole qui a un peu remis les Yankees sur le droit chemin là, parce que le début de saison était un peu louche à New York. Et là, on s'est vraiment replacé là, de ce côté-là.
C'est ce qu'on appelle vraiment un lanceur numéro un. Je me rappelle j'étais avec les Pirates. Puis même lorsque j'étais avec les Red Sox, les gérants parlaient beaucoup d'un numéro un. Ça, c'est un gars qui arrête les séquences de défaites. Donc, tu peux en avoir 2 de suite ou tu n'en as jamais plus que 4 parce que lui, il s'en vient, bam, il t'amène puis il t'amène du momentum. Donc, c'est certain que Garrett Cole, là, pour moi aussi, là, je comprends pour Means, mais il ne lance pas avec autant d'aplomb là, puis non. Il n'a pas assez de statistiques comme celle de Cole. Puis, c'est sûr que j'aimerais beaucoup te parler de Corbin aussi, mais de Grom, je pense qu'on lui donne... un point de plus par match, puis il serait en ce moment là, 6 ou 7-0 là, avec, mm-hmm. avec une moyenne de points mérités en bas de 0.5. Donc, je pense que DeGrom, ce qui est impressionnant, c'est qu'on pensait qu'il était bon. En fait, on pensait qu'il était excellent l'année dernière ou les années d'avant, mais il est juste meilleur à chaque année. Alors, quand est-ce qu'il va arrêter ça? Ça reste à voir, mais il lance plus fort, ses balles bougent plus, il a des meilleurs chiffres. Je me sentirais mal si j'étais lui de jouer à New York en ce moment encore.
Ben, écoute, c'est unanime. Les Cy Young vont à New York. Tu sais, avant le début de la saison, moi, je fais partie tout le temps du comité d'experts là, dans le Journal de Montréal qui envoie nos prédictions. Mes prédictions pour le Cy Young, c'était Jacob deGrom dans National, puis Lucas Giolito. Je voudrais m'excuser auprès de Gerrit Cole d'avoir préféré Lucas Giolito. Ça va être clairement Gerrit Cole. Puis,
Tu
parlais de Corbin Burnes, ben, c'était juste sa séquence incroyable. Là, que ce gars-là n'a pas donné de but sur balle, puis il a fait quoi, 56 cas avant de donner son premier but sur balle de la saison. Puis à propos de Cole, il a donné 3 buts sur balle en début de saison. Mais il est présentement sur une séquence de 58 cas. Fait que les gars sont incroyables. Mais comme faisait remarquer Ozué hier en m'envoyant un petit message sur Facebook, le record de tous les temps en nombre de manches, ça reste Greg Maddux. Il avait eu 72 manches et un tiers sans donner de but sur balle. Ça, je
puis
pense pas
le
que ça
but sur balle. Puis le but sur balle qu'il a donné, juste pour vous mentionner, c'était un but sur balle intentionnel. Alors, ça a été Bobby Cox qui a demandé à son lanceur qui lance le plus de prises au monde de donner un but sur balle intentionnel. Puis on peut le constater aussi, Ben, là, je ne sais pas si tu as lu là, l'article au complet, là, parce que moi, je suis un fan de Greg Maddux. Mais il avait dit carrément, écoutez, oui, c'est ça qu'il fallait faire. Puis, si j'avais mieux lancé, mais mon coach ne m'aurait pas demandé de lancer un but sur balle intentionnel. Alors, tu vois que Greg Maddux, puis en plus de ça, là, Ben, là, je pense qu'après le but sur balle intentionnel, il est allé comme dans une autre séquence de comme 40 manches de suite sans donner de but sur balle. Alors, ça, c'est quelque chose là, d'incroyable. Greg Maddux, je me rappelle quand j'étais avec les Pirates, il y a un de mes coachs de lanceurs qui l'avait coaché dans les mineurs. Puis Greg Maddux, il avait dit qu'il n'aimait pas quand les gars soignaient dans le beurre. Lui, son but, c'était que chaque balle qu'il lance ou presque soit mise en jeu, mais juste que tu ne sois pas dans un état pour frapper la balle avec aplomb. Donc, tout le temps, là, être sur une jambe ou être en avant. C'était son but.
C'était monsieur roulant, hein, Greg Maddux. C'est incroyable le nombre de roulants qui faisait frapper. C'est incroyable.
Hey, ça l'a beaucoup changé. Maintenant, on veut lancer pour manquer des bâtons.
Exact.
T'sais, on veut lancer le plus fort possible. On joue beaucoup avec la zone, tandis que Greg Maddux, ben, c'était quelqu'un qui, lui, voulait lancer toutes les balles dans la zone des prises ou presque pour que les joueurs là, mettent la balle en jeu.
Hey, vous parliez de Corbin Burnes. Là, j'ai vu de quoi passer sur MLB Network. Là. En 2019, là, il lançait sa rapide, sa four-seam, 52% du temps. Et en 20 et en 21, il la lance maintenant 2,3% du temps seulement. Wow. Et là, c'est sa sinker qui lance pour maintenant 32% et sa cutter 31% et son change-up 11% du temps. Donc, il a changé complètement sa stratégie au monticule. Là. C'est incroyable de passer de 52% à 2%.
Probablement qu'il a développé son pitch. T'sais, des fois, c'est absolument. Ça, les lanceurs. Un pitch que tu t'ajoutes à ton arsenal, puis ça change ta game complètement.
Absolument. Lorsque tu te rends compte là, que tu es capable de mettre du mouvement sur ta balle et ça te porte fruit, mais c'est surtout aussi de pouvoir contrôler ce lancer-là. Si tu es capable de le contrôler et justement le pouvoir le lancer sur n'importe quel compte, mais tu deviens vraiment là, tu sais, parce que lorsque tu es au bat, si tu es au bâton, puis tu le sais que le lanceur peut te lancer une cutter, une sinker ou une balle courbe pour des prises à n'importe quel compte, mais tu as une chance sur 3, une chance sur 4 de savoir ce qui s'en vient. Tandis que si tu le sais que ton lanceur ne lance pas beaucoup de prises avec sa curveball, ben tu le sais que si tu es 2 balles, une prise, tu peux en éliminer un, donc tes chances d'avoir un meilleur lancer sont meilleures. Alors au bâton, c'est vraiment plus facile, de, je dirais pas de guesser, mais une chance sur 2, c'est déjà mieux qu'une sur 4, là.
Hey, les boys, vu qu'on a parlé de Greg Maddux, puis je veux juste pas oublier le livre qu'on a fait tirer. Tu veux-tu dévoiler le nom du gagnant, Sylvain? L'as-tu déjà fait? Non? L'as-tu déjà dit?
Non, on l'a pas. Non, c'est Mickaël Lavoie, notre gagnant.
De Rivière-du-Loup. Je pense que
tu le connais, hein? De Rivière-du-Loup, ouais. Exact. Donc, Michael, si tu veux bien nous écrire là, à l'adresse lesbuts-remplis@gmail.com, on va prendre tes informations et tu vas recevoir ton livre dans les prochains jours, semaines. Je présume que c'est assez rapide.
Oui, oui. Puis j'ai eu un flash par rapport au livre, là, parce que vous parliez de Greg Maddux. Ben, on parlait de Greg Maddux. Puis dans le livre, il y avait un passage de Christian Tétrault qui dit que ses enfants étaient au stade puis ils couraient les balles pour ramener des balles à la maison pour s'entraîner et tout. Puis il demandait tout le temps des balles aux joueurs. Puis à un moment donné, il a demandé à Greg Maddux. Puis Greg Maddux, il a lancé la balle au fils de Christian Tétrault. Il l'a échappé. Il lance une deuxième balle. Il l'a échappé. Là, Greg Maddux attend une troisième balle. Il l'envoie finalement, le fils à Christian Tétrault l'attrape, OK? Mais Christian Tétrault, il avait comme vu ça aller, puis il a dit « Hey, ça tentait pas d'attraper la première. » Il dit « Ah, Maddux n'en sait pas bien. » T'es là, quoi? Tu niaises, genre, le lanceur le plus précis de l'histoire. Toi, tu me dis « La faute, c'était Maddux qui lançait pas assez bien, tu sais. » Je trouvais ça écœurant. Fait que, encore une fois, le livre de Chips, Peanuts, Cracker Jack à Fred Degg, allez chercher ça. Yes. Il y a des bonnes anecdotes là-dedans.
Mon Dieu.
Hey, on va conclure ça. On est déjà rendu à plus qu'une heure, là, évidemment, avec Eric. C'est tellement intéressant, Marc-Antoine, Ozoé, ta chronique et tout. Avant de conclure, je voudrais juste parler un petit peu de la course, peut-être, dans la Ligue américaine, la section S. Les Blue Jays qui vont affronter trois fois les Red Sox cette semaine. Ensuite de ça, tu as une série de quatre matchs contre Tampa. Puis une série de trois matchs contre les Yankees. Donc là, ça va être vraiment important. Puis tout ça, moi, les Jays, là, j'en reviens au fait que Springer n'a pas joué beaucoup de matchs, puis ils sont encore au cœur de la course. Puis ils sont écœurants, là, les Blue Jays. Là. Tu sais, moi,
on n'a toujours pas trouvé non plus la profondeur qu'on recherche au Monticule au niveau des lanceurs partants. Là. Tu sais, on se limite beaucoup à Robbie Ray, Steven Matz qui lance vraiment bien cette saison, puis Ryu. Mais ça fait pitié là, à 4 et 5. Là. C'est Ross Stripling, c'est pas évident et tout ça. Il va falloir trouver un peu de profondeur à ce niveau-là, je pense.
Ben, je pense que Charlie Montoyo est habitué à ça là, avec Tampa. Là, il y avait probablement seulement Snell, Archer pendant que Montoyo était là. T'sais, il jouait à 3 partants et demi. Donc, je le sais que Montoyo est capable de gérer ça. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu là, du côté des Jays, c'est que les autres équipes qui ont leur maison. Les autres équipes, là, ils peuvent jouer à la maison. Parce que les Jays, pour avoir l'appui de la foule, parce que là, les équipes commencent à avoir un petit peu de monde. C'est pas à Buffalo là, que tu te sens comme au Rogers Center pour avoir été là pendant 3 ans. Tu as besoin d'une foule comme ça que les autres équipes ont. C'est là que j'ai un petit peu peur pour les Jays, mais ce qui est du côté là, sur le terrain, là, on voit vraiment là, que c'est une équipe là, qui frappe la balle quand même avec aplomb. Puis leurs jeunes joueurs sont en train de faire le travail. Donc, j'ai hâte là, de voir là, dans à peu près 2 semaines où est-ce que les Blue Jays vont se placer.
Ouais,
es-tu inquiet, toi? Es-tu inquiet de Bijou et Gourriel?
Je suis plus un petit peu inquiet de Bijou que de Gourriel.
Ouais.
Gourriel, il commence là, à s'échauffer un petit peu, puis il met la balle quand même avec aplomb. Hein. C'est un gars qui est quand même... il s'élance beaucoup. Hein. Premièrement, là, c'est complètement le contraire de Bijou. Donc, Bijou, là, s'il ne se rend pas sur les buts, là, c'est pas un gars qui va frapper 300. Donc, c'est un peu plus Bijou là, qui m'inquiète. De là, la raison pourquoi je suis content d'avoir Simeon. Puis Espinal aussi qui fait un bon travail. Espinal qui joue très bien. Puis c'est un gars qui, en défensive, il est vraiment meilleur que Bijou. Donc, de ce côté-là, je ne suis pas tellement inquiet pour les Blue Jays.
Ce qui a été très bon pour les Blue Jays depuis le début de la saison, là, peut-être moins, je pense qu'il y a 2 matchs, ça a moins bien été, mais les releveurs, là, ils viennent tellement compenser pour le fait que... Les releveurs sont souvent dans l'ongle, là, mais tu sais, Chatwood puis Romano est incroyable. Ouais,
t'as Merriweather qui est toujours pas revenu.
Exact. Yes. Ah, écoutez, moi, avant de finir ça, le dernier point, puis ça vient tout le temps avec ma fin, là, c'est cette semaine, là, Drew Robinson.
Drew, t'as, ben oui.
Entends-tu parler de Drew Robinson aux Ouépelés? Le gars a déjà joué. Drew Robinson. Le gars a déjà joué 100 matchs dans le baseball majeur. 95 avec les Rangers, puis 5 avec les Cards. l'année dernière, fait une tentative de suicide avec un fusil, perd son œil, et de retour au jeu cette semaine dans l'organisation des Giants de San Francisco, niveau 3A, a frappé un circuit, a dit merci à ses parents qui étaient dans la foule. C'était, tu sais, j'ai de la misère à qualifier ça d'une belle histoire, là, mais j'avais pas le choix de glisser un mot là-dessus, tu sais, d'autant plus qu'avec la fin du podcast que je termine toujours en relatant les mots de Derek Aucoin, comme de quoi que le suicide n'est jamais une option, puis si vous avez besoin d'aide, besoin de parler, un 866 appel, tu sais, c'est la fin que je fais à chaque podcast, que je fais présentement. L'histoire de Drew Robinson m'a bouleversé quand même. Puis, c'est ça, j'ai de la misère à dire que c'est une belle histoire, mais fallait que j'en glisse un mot. Là.
Non,
ouais,
c'est...
Vas-y, Sylvain.
Non, mais en fait, il n'y a pas grand-chose à rajouter là-dessus. Là. C'est vraiment hallucinant comme histoire. Je pense qu'il faut le prendre comme un exemple de persévérance, puis qu'il y a toujours du positif devant nous, puis qu'il ne faut pas lâcher, là, puis qu'il y a toujours une lumière quelque part pour nous aider.
Ben, ça finit d'onde un peu. Hein?
Non, mais c'est une belle histoire quand même.
Je pense que c'est ça. C'est comme un petit peu Ben, tu dis, mais je pense que c'est aussi mentionné qu'il y a toujours quelqu'un qui est prêt à nous écouter avant de passer à n'importe quel genre de décision. Là, ça, c'est sûr, c'est la décision ultime. Mais il y a toujours quelqu'un qui est prêt à tendre son oreille puis à t'écouter. Donc, on a montré le numéro de téléphone tantôt, mais on a des amis, on a de la famille, on a des proches. Des fois, même, c'est des professeurs. J'enseigne avec des kids là, au secondaire. Puis, il y en a quelques-uns qui sont venus me parler. Pas nécessairement pour ça, mais pour des choses complètement plus anodines. Puis, juste avoir une oreille, là, des fois, ça fait du bien. Puis, d'en parler aussi, ça nous fait du bien, justement, à nous autres. Puis, des fois, on peut se rendre compte aussi que c'est moins grave de ce qu'on pense.
Mm-hmm. Hey, merci, Josué. On rappelle le numéro 1-866. Appel. Merci à Éric Gagné. Merci à Marc-Antoine Bérubé d'avoir été avec nous. Merci, Josué. On va te suivre attentivement dans les prochaines semaines. Sylvain, la semaine prochaine, je veux une photo de Terreno parce qu'on a entendu. Ça travaille fort.
Ouais, ça travaille fort, mais ça ne sera pas pour tout de suite les photos. Ça va être plus tard.
On va aller semaine par semaine. On va aller se
mettre. Exact, oui, la progression, c'est bon ça.
On va voir la progression, exact.
Allez, bonne semaine les boys, merci beaucoup.
Salut les boys.
Partagez le podcast si vous l'aimez, ça nous permet de rejoindre le plus de gens possible. Donc, n'hésitez pas et messieurs, ben, on se revoit la semaine prochaine.
Away down!
On sort de la maison, entrez